C'est parti.
Voilà, on va le mettre dans la poche.
Oui, alors, David m'a demandé de vous parler un peu de la vie de chrétien dans le cadre des entreprises ou dans le cadre du travail. Je me présente d'abord, je m'appelle Jean-Jacques Jeuch, je suis alsacien, alors mon accent c'est de l'allemand, de l'anglais et du français mélangé, parce qu'on me demande souvent d'où ça vient. Alors je suis ingénieur, et je suis parti chercher du pétrole en Iran, Afghanistan, Arabie au début de ma carrière. Ensuite j'ai refait une formation de management à l'INSEAD, à Fontainebleau. Ensuite, je suis allé chez McKinsey, qui est un des conseillers de management pour les grandes entreprises. Et j'ai travaillé ensuite à la COMEX, la plongée sous-marine. J'ai fait des installations importantes en mer du Nord. Donc la COMEX était le leader mondial. J'étais patron de l'engineering. Et donc on avait tous les records de plongée jusqu'à 710 mètres avec un homme dans l'eau. Et ensuite, j'ai travaillé chez un ami en Alsace qui fabriquait des véhicules spéciaux. Puis, dans une société qui... J'ai fait l'introduction en bourse en France d'une société dans la mécanique, dans le traitement des métaux, qui a été rachetée par une OPA, par une société qui était en bourse à Londres. Et donc, j'ai fait partie du conseil d'administration, président de l'Europe du Sud et membre du conseil d'administration en Angleterre, à Manchester. Donc voilà, je suis à la retraite depuis quelques temps, mais je continue à faire du conseil. Entre-temps, j'ai créé une entreprise avec un ami chrétien, donc que je suis toujours. On m'a demandé d'être administrateur d'une start-up, enfin, ça fait 8 ans qu'elle existe, pour la développer sur de la high-tech dans la mécanique. Et ça, c'est le côté plus professionnel, et puis il y a le côté chrétien où je m'occupe beaucoup des radios chrétiennes en France. Donc je suis m'occupe d'une radio qui s'appelle Phare FM à Lyon, d'un groupe Phare FM qui fait 8 radios, et du coup je suis au conseil d'administration de la Fédération française des radios chrétiennes avec les catholiques. Et je suis au ministère de la Culture dans la commission qui attribue les subventions aux radios. Ça me fait 1 ou 2 journées par mois où je suis allé au ministère de la Culture justement attribuer des subventions à peu près 600 radios associatives françaises. À côté de ça, sur Paris, on m'a demandé de suivre un peu une association qui place des chômeurs, qui s'appelle MIR, vous connaissez peut-être, une place à peu près 300 chômeurs dans l'année, qui va du balayeur jusqu'à l'ingénieur cadre supérieur. Voilà à peu près. Bon, si vous voulez d'autres questions, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, le côté éthique, c'est par là qu'on commence, je pense. J'ai pris quelques notes pour ne pas me perdre, et mes lunettes aussi. Alors, déjà, je vais vous faire toucher du doigt, peut-être vous choquer des fois sur certaines... je ne vais pas faire un cours... Pourtant, j'ai l'esprit assez rationnel, mais pour surtout vous faire toucher du doigt des éléments importants. Alors déjà, l'éthique, qu'est-ce que c'est ? Le monde évolue, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le monde, les lois physiques n'évoluent pas, la perception que les hommes en ont évolue. L'éthique change dans l'espace, c'est pas la même en Europe qu'en Asie, et dans le temps, parce qu'il y a des problèmes qui existent aujourd'hui, la PMA, etc., ne se posait pas il y a 200 ans. Donc il y a un changement permanent à ce niveau-là. Et alors, comment vous le définiriez ? Parce que moi, je pense que c'est assez difficile. Par exemple, je vais vous citer un exemple dans l'espace. Nous, on a une conscience et on ne fait pas les choses mal parce qu'il y a un Dieu qui nous condamne parce qu'on a cette conscience. En Asie, avec le bouddhisme, ils n'ont pas ça. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de conscience, mais ils n'ont pas ça. Donc, quand vous négociez un contrat avec un Asiatique, il faut savoir d'où, vous comprenez tout de suite, perdre la face en Asie, il faut faire très attention parce que la morale tient tant que si l'autre regarde, tant que l'autre ne voit pas ce que je fais, j'ai pas fait de faute. Donc ça, le comportement qu'on a, etc. Donc ça c'est dans la géographie. Déjà il y a pas la même valeur. Dans le temps, et puis même, qu'est-ce que c'est l'éthique? Respecter les lois. Bon, je citerai qu'un exemple. Jésus lui-même n'a pas respecté les lois. Ok? Puisqu'il a autorisé ses disciples à manger du blé le sabbat, il a guéri, etc. Alors, tout est relatif. Et au niveau de l'éthique, je dirais, l'éthique pose des problèmes qui n'ont pas de solution, dans le sens scientifique du terme. Il y a une interprétation de valeurs, de comportements. Donc déjà, je voulais commencer par là pour vous faire toucher du doigt le côté sensible du sujet. Bon, le monde change. Juste un petit exemple. Quand moi, j'ai cherché du boulot et vous, il y a 30-40 ans, les employeurs appelaient chez mes parents pour leur demander pourquoi ils ne veulent pas venir chez nous. Quand je vois mon fils, qui est ingénieur chimiste, à chercher il y a un an ou deux ans, un an et demi du boulot, il a passé un an à chercher. Donc, il y a des choses qui changent dans ce monde. Alors, au niveau éthique aussi, avant de parler plutôt du côté chrétien, les grandes valeurs, il y a eu ces derniers temps un énorme changement. Le christianisme, le communisme, le capitalisme, tout ça s'est écroulé. Il y a 100 ans, 50 ans, il y avait des références. Le monde ne croit plus. Il ne croit plus ni à l'éthique, ni au communisme, ni au capitalisme, ni au christianisme, ni à quoi que ce soit. Il y a quand même un changement assez radical, et il y a les philosophes de notre temps qui en parlent et qui étudient cette question. Alors, comment on fait ? Alors, quelle est la conséquence de ça ? C'est que chacun crée sa propre valeur, sa propre éthique. Puisqu'il n'y a plus d'éthique commune ou de société à laquelle tout le monde adhère. Et il y a un phénomène assez clair avec Internet, avec les réseaux sociaux. Les gens se regroupent avec ceux qui pensent la même chose. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils pensent est bien, pour l'un ou l'autre. Donc il faut voir dans quel monde on est aujourd'hui. Toutes ces grandes. Alors, chacun crée ses propres valeurs. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? L'anarchie. Et l'anarchie, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? La loi du plus fort. Il faut bien comprendre ça. Alors, je vous ai donné un exemple. On a une grève aujourd'hui, c'est marrant. J'ai entendu un philosophe, je n'ai pas retrouvé son nom français, qui écrit pas mal de bouquins, qui démontrait cette chose-là, que l'écroulement des valeurs, etc., que chacun est livré à lui-même. Le soir, il y avait grève de train et je devais aller à Lyon. Donc un TGV sur deux était supprimé. Alors ce qui était intéressant, donc une personne sur deux avait la bonne place, il était dans le bon TGV. Donc moi je rentre, je m'assieds, etc. À côté, ou pas loin, il y avait une dame qui s'était assise. D'un seul coup, il y a un gars qui vient. Non, il y avait un gars qui était assis, il y a une dame qui vient. Et elle dit, monsieur, vous avez ma place. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il met sa propre valeur. C'est pas celui qui a la bonne place dans le bon train, c'est aujourd'hui ça compte pas, parce qu'il y a grève. Ok ? Donc il crée son propre truc. Alors ça va très loin. Parce que c'était une dame, bon, pas très âgée, mais quand même 40 et 50 ans. Déjà, la autre valeur, la politesse et la galanterie, c'est passé à l'as, ok? Et moi, officiellement, je jouais au rugby, il était en fédéral une, et puis il était payé, il était presque comme professionnel pendant ses études, et il était considéré comme joueur de haut niveau. Et il fait 1,90 m, 15 avec 100 kilos, il court le 100 mètres en moins de 11 secondes. Bon, si un troisième ligne de rugby s'était pointé vers ce gars en disant, écoutez, je vous en prie, monsieur, vous avez ma place, il aurait dit, oui, j'ai pas de problème, hein, prenez-la. Mais comme il y avait cette dame qui était faible, etc., il a dit, moi, je reste assis, débrouillez-vous. Okay. Il y a 20 ans, 30 ans, ce ne serait pas passé comme ça. Hein? Donc, vous avez typiquement. Et, alors, un autre exemple que j'ai noté qui m'a vraiment presque choqué. Une amie dans une association assez importante, cadre de cette association, et il y avait une discussion avec la directrice, je ne sais pas si. Prenons le salaire, qui lui a promis une augmentation de salaire. Et au bout de 6 mois, rien n'est venu, elle va voir cette directrice et lui dit, écoutez, vous m'avez promis. Ah non, non, ça ne tient plus. Et donc, cette personne dit, mais vous m'avez menti quand vous m'avez dit que je vais avoir une augmentation. Et alors, devinez la réponse. Alors là, vous êtes assis. Le mensonge n'existe pas entre les adultes. C'est que pour les enfants. Donc, une directrice d'une association avec plusieurs centaines ou milliers de personnes répond ça. Vous voyez, l'explication, le monde est comme ça. Et moi, à mes directeurs, des fois, l'histoire du TGV, etc., au repas, je leur dis, tiens, voilà ce qui m'est arrivé. Mais la moitié, il y en a un qui dit, moi, j'aurais fait pareil. Hein? Donc, déjà, pour vous faire toucher le doigt, ce côté, le monde dans lequel on est. Alors, il y a un autre grand problème, avant de reparler plus de la Bible. C'est surtout moi, Luc Ferry, le philosophe, en a parlé un peu dans certains trucs, dans certains livres. Mais l'homme aujourd'hui ne décide plus de son destin. Et c'est de plus en plus. J'ai entendu un philosophe Klein la semaine dernière, il y a 10 jours, qui était un scientifique, qui travaille au CEA. Disait un peu la même chose. Ceux qui réfléchissent au devenir de la société pensent tous un peu la même chose. L'homme ne décide plus de son destin. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Il est soumis à un système. Nous sommes dans un système. Alors, là-dessus, il suffit de lire Ellul, hein, qui est un philosophe protestant, sur l'illusion politique. Alors là, vous avez tout compris. Les politiques, c'est pure illusion. Ils n'ont aucun pouvoir. Le scientifique, le Klein, me disait, aujourd'hui, quand on a un problème, on appelle des experts. On essaie de trouver l'expert et ensuite, c'est la valeur de l'expert. Il y a la télé, les débats, il n'y a que des experts. On ne pense plus. Donc, et hop, c'est eux qui donnent le ton et ce que je pense a plus de valeur à côté. Pour les hommes politiques, pensez bon, vous êtes jeune là, vous êtes général de Gaulle, qu'est-ce qu'il faisait quand il faisait de la politique? Il lisait sa Croix de Lorraine, il disait voilà ce que je pense, et ceux qui pensent comme moi, ils me suivent. Puis va dans une direction, il y a une partie qui le suit. Okay. Aujourd'hui, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus d'idées à eux. Ils font des sondages. Et quand vous voyez le cafouillage entre les idées de la droite à la gauche, à la chaîne, par devant, par derrière, etc., ils essaient tous de se placer pour qu'un maximum de gens les suivent. Vrai ou faux? Donc c'est le système. Et ça, il y a une graisse, une huile qui graisse tout ça, c'est les journaux, c'est les journalistes. Qui, comme chaque événement est monté. Hein. Donc, on ne contrôle plus rien. Tchup, 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 on est amené dans des directions. Vous voyez un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et au niveau des entreprises, alors pour venir aux entreprises. J'ai un collègue de l'INSEAD avait fait une étude je ne sais plus combien, mais je dirais il y a la moitié moins d'entreprises qui appartiennent à un homme, un propriétaire. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir une carrière avec un côté d'hommes qui avaient créé leur entreprise et qui avaient tout pouvoir. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir, à un moment donné, tout pouvoir absolu. Mais aujourd'hui, les grands groupes, les fusions, ils achètent. Celui qui décide. Mon fils, il est à Houston, il est patron d'un laboratoire d'essai. Il a quitté, il est allé chez la concurrence pour une seule raison, parce qu'il dit, oh, je ne veux pas quitter ma société, parce qu'ils m'ont donné la carte verte, il est marié à une américaine, et moi je veux les servir. Et à un moment donné, il dit, maintenant ça suffit, là, il a eu quand même 50% de salaire de plus à la concurrence, mais ce n'est pas pour ça qu'il est parti. C'est qu'il n'acceptait pas qu'un gars au Canada qui ne connaissait pas décide de son salaire. Hein? C'est-à-dire, et aujourd'hui, les gens, et c'est extrêmement difficile pour les cadres, on demande de la performance, et les gens qui décident, et les gens qui fixent les objectifs, ne connaissent rien au terrain. Et c'est de plus en plus comme ça. Donc on est dans ce système, hein, d'où stress, d'où sérieux problème. Bon, mon gendre, tiens, qui est à l'air légitime, l'année dernière, il me dit, pour les objectifs de cette année, ils lui ont fixé des objectifs, et donc il a demandé son patron, le patron d'au-dessus, etc., expliquez-moi pourquoi ces objectifs-là. Il y en a aucun qui a pu lui répondre. OK? En fait, c'est un débutant comptable, donc comment on appelle ça, les auditeurs, hein, qui, de 24 ou 23 ans, a décidé sur un tableau Excel, il a rajouté 3% là, 5% là, et il l'a envoyé dessus. Oui, le système. Alors, combien de temps, je passe au côté chrétien maintenant, combien de temps on a, oui, éventuellement, s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre, mais c'est peut-être mieux comme on enregistre, que j'aille jusqu'au bout et vous poser les questions après.
On peut éditer, de toute façon, l'intervention.
Alors, moi-même, J'ai dû me plier au système, parce qu'un jour, il y a un de mes directeurs qui m'a reproché, « Ouais, avec nous, quand tu es avec nous, tu dis ça, tu penses que ça est bien, on est tous d'accord, et quand tu reviens de la réunion d'actionnaires, c'est le contraire, etc. » Alors, c'est pas évident. Donc moi, j'ai essayé de leur expliquer, écoutez, s'ils me virent, vous savez pas ce qui se passe. Moi, je suis de votre avis. Je vais tirer la barque de ce côté-là. Mais je ne peux pas brutalement rentrer dedans en disant « Non, on ne va pas faire comme ci, on ne va pas faire comme ça, ou on a une meilleure idée. » Je suis obligé d'accepter, mais dans les 10 idées, j'en ai fait passer 3. Les 7 autres, ben, on attendra le mois prochain, on attendra l'année prochaine. Parce qu'il faut que je me fasse respecter par les actionnaires autant que par vous. Donc on est obligé de composer avec tout ça. C'est pas si simple que ça. Alors, quelle est la position du chrétien dans tout cela ? Alors, on a vu que ce système et puis ce qui se passe dans le monde, l'homme, il y a beaucoup d'aspects où ce système conduit à l'homme-dieu. J'ai entendu la semaine dernière, Google, ils ont lancé un programme. Et y a des gens qui croient dur comme fer que l'homme vivra 1000 ans. Donc ils ont fait des recherches, ils dépensent des milliards pour faire vivre l'homme. Alors il y a une première étape, c'est 120 ans. et ensuite au-delà avec la génétique, etc. Donc il se prennent pour Dieu. Dès qu'on a le pouvoir un peu absolu, on se prend pour Dieu. Un truc tout simple aussi, l'Europe, moi, je ne veux pas faire de politique. Le Parlement européen, c'est quoi? C'est l'architecte, qu'est-ce qu'il a pris comme référence? Vous regardez, vous tournez autour, vous regardez le bâtiment, c'est le tour de Babel. Il a pris le tableau du peintre Bruegel, je crois, hollandais, de la tour de Babel. Et vous voyez, les murs ne sont pas finis. Il y a des... parce que l'homme veut faire une unité qui a loupé une première fois, et ce coup-là, on va y arriver. Alors, quelles sont les règles à suivre? En tant que chrétien, je vais vous citer un certain nombre d'exemples que j'ai vécu, mais c'est pas pour me glorifier, c'est que c'est des choses où j'ai vu manifestement l'action du Seigneur, notre Dieu, dans notre vie. Parce que nous avons une chance. En tant que chrétien, par rapport à ce que je viens de dire, phénoménal, c'est que notre référence, nous ne l'avons pas abandonnée, la Bible, et nous avons une deuxième chance, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, avec ces deux éléments-là, nous pouvons nous comporter, avoir des valeurs dans la vie, même si ça change, même si on doit des fois s'adapter. Si on n'oublie pas la parole de Dieu et la prière, donc et le Saint-Esprit, se laisser inspirer par le Saint-Esprit, on vit, on est chrétien. Alors moi, ce que je peux vous dire, chaque situation est particulière. Mais, bon, par exemple, Dieu, quand il dit à Abraham, il dit « marche devant ma face et sois intègre ». Donc, il y a un certain nombre de choses. Et heureux l'homme. C'est le premier psaume, le premier verset ou le deuxième. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, des exemples de témoignages. Quand j'étais en Asie, j'étais patron d'une entreprise, il y avait 800 personnes, une filiale de la Comex, il travaillait à Bornéo. Et quand le PDG venait de temps en temps, on faisait des tours, on travaillait sur des gros contrats. Et quand il me présentait aux Chinois, alors, j'ai jamais témoigné à ce gars-là. Hein. Il me présentait, voilà, c'est M. Juge qui se voyait, c'est un chrétien protestant. Pour qu'un type qui ne croit pas en Dieu, etc., me présente de cette façon-là, quelque part. Alors, des fois, quand on avait une réunion dans ces pays, quand on est à droite, à gauche, le dimanche matin, on se réveille, je dis non, moi, le dimanche matin, je vois s'il y a une église quelque part, baptiste ou protestante ou évangélique dans le coin, à Jakarta, j'y vais, donc est-ce qu'on peut reporter la réunion à une heure ou plus tôt? Donc, il savait mais au-delà de ça, non. Mais par rapport au comportement, moi, j'étais un peu... C'est quand les autres rendent témoignage de vous, ça prouve que la parole de Dieu, ce que je viens de lire avant, et le Saint-Esprit vous guident ou vous transforment et les autres le voient. Donc le fait que cette personne me présente comme chrétien, sous-entendu, vous n'avez aucune chance de le corrompre. C'est son souci à lui, c'était purement financier, sûrement. Comme Joseph, son maître, vit que l'Éternel était avec lui. Quand Joseph, l'histoire de Joseph, à un moment donné, son maître vit que l'Éternel est avec lui. Et c'est là qu'il lui a donné plein de trucs. Quand l'autre maître voit que l'Éternel est avec nous, il se dit, celui-là, je ne veux pas le perdre, ou je veux le mettre dans des situations difficiles. Quand j'ai rejoint, j'avais quitté l'entreprise en Alsace, qui était un ami, qui est toujours un ami, Et quand j'ai rejoint l'entreprise pour aller en bourse à Paris, les patrons se renseignent auprès des autres patrons pour voir comment il est. Et j'ai appris plus tard, c'est donc mon nouveau patron qui me l'a dit, hein, qu'il n'avait jamais entendu un témoignage sur moi de mes anciens autant fort et autant impressionnant que les patrons d'avant que j'avais lui ont donné. Donc le PDG de la Comex, le PDG de l'Or en Alsace, etc. Ces gens-là ont dit ça, pas pour rien. Et moi, et c'est d'autant plus étonnant, c'est que quand je me suis souvent frictionné à eux, mais ça transparaît. J'ai aussi, lors d'une on vendait une entreprise. J'ai acheté et vendu pas mal d'entreprises, et donc les avocats se retrouvent, etc. On discute. Et à midi, au repas, on parle d'une personne que je connaissais, chrétien. Ah oui, vous connaissez Rémi, etc. Je dis oui, bon, etc. Puis le gars, spontanément, il dit: Ah, mais c'est un type comme ça. C'est un chrétien évangélique. Au milieu de combien ça coûte, combien ça rapporte, etc. Donc ce gars, par son attitude, alors je lui dis comment vous savez ça, et donc il m'a expliqué un peu le cheminement, comment il est arrivé à savoir ça. Ça se voit, les autres le voient chez nous. Donc il faut pas. Et Dieu est avec nous et il nous rend témoignage. Pour nous fortifier, pour nous. Alors, quand je suis parti à la retraite là, de l'entreprise qui est en bourse à Londres, le président international, enfin, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, on a fait une petite fête, il m'a offert une grosse télé, bon, admettons. Ils m'ont salué tous, tous les directeurs, il y avait 30, 50 personnes. Et le président vient, il m'embrasse et il pleure. Il me dit: Merci pour ta loyauté. Et il m'a toujours dit: Moi, je suis athée, je ne veux pas entendre parler de l'évangile. Et ça reste un ami. Dans le sens, il est parti à la retraite depuis aussi, un Américain. Et le fait de dire ça, ça se voit. Donc je vous encourage à se rapprocher du Seigneur et à être ce que vous êtes, parce que chaque situation est ensuite différente et vous trouverez la bonne solution. Peut-être un dernier témoignage assez. On avait un truc à négocier. Non, l'entreprise avait, au niveau qualité, un problème. Avec un gros client, ça ne marchait pas, etc. Donc il fallait voir, il fallait renégocier le contrat, etc. Donc je suis allé avec les directeurs. On s'est fait ramasser, vraiment ramasser. Mais avant, on avait dit: Voilà nos objectifs, voilà ce qu'on veut obtenir, les gars. On m'a dit: Oh, aucune chance. On s'est fait vraiment ramasser. On est sorti, on avait tout obtenu. Alors, moi, j'ai dit au gars qui était avec moi, et trois quatre, des directeurs techniques, commerciaux, vous avez vu comment il faut faire? Et le plus, d'ailleurs, qui est président à ma place en ce moment, donc qui m'a remplacé, me dit: Ouais, mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Je dis: Non, pourquoi? Et oui. Non, parce que toi, tu es chrétien. Pareil, je n'ai jamais. Il sait que je m'occupe de radio chrétienne, etc. Mais il y a rien. Non, ça, tu peux. Il y a que un truc comme ça, retourner une situation comme ça, on peut le faire que quand on est chrétien. C'est le monde qui dit ça. Et donc, je vous encourage donc dans ce sens à être ce que vous êtes. Et ça viendra tout seul. Alors, Ça, c'était le premier truc, un peu notre éducation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation depuis tout jeune, protestante, assez forte, et ensuite évangélique, etc. Tout le monde n'a pas ça. Mais donc, j'ai une culture de façon d'être qui... Mais ça, en lisant la parole, on le reçoit, cette culture. Ça, c'est un peu le premier niveau. Mais le deuxième niveau, la parole de Dieu nous donne la solution à toute une série de problèmes dans l'entreprise, en ce qui me concerne, mais je dirais presque, là, je parle de l'éthique de l'entreprise, c'est tout court dans la vie. Il n'y a pas de différence à faire. Et pour avoir une meilleure performance, parce que tout le monde veut une meilleure performance, y compris tout le monde veut une vie meilleure pour soi-même. Donc le côté performance, faire mieux qu'avant, chaque individu l'a en soi. Alors, je vous cite quelques exemples de comportements. Alors, dans la Bible, moi je me suis toujours beaucoup intéressé aux personnages, Joseph, bon, Abraham, Daniel, des trucs extraordinaires, Barnabas dans le Nouveau Testament, Paul, etc. Comment ceux qui avaient des responsabilités, comment ils se comportent dans telle et telle situation. Donc on trouve dans la Bible beaucoup de réponses à des situations. Alors, je cite quelques-unes. Le comportement devant les autorités, devant les supérieurs pour obtenir quelque chose. Comment ils font? Je prends Néhémie. Néhémie 1, verset 2, 3. Je fus saisi d'une grande crainte, pas de Dieu, de son roi, de son autorité. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. C'est-à-dire, il arrive... Il est très en retrait. Il ne se présente pas, j'ai une bonne idée, il faut me suivre, etc. Daniel. Alors, Daniel 2, verset 14. Alors Daniel s'adressa de manière prudente à Arioc, donc le chef des gardes. Ecclésiaste, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc, dans notre comportement, il y a toute une série de... Alors, Daniel, par exemple, dans l'attitude. Daniel, au tout début, ça commence par Daniel résolu de ne pas se souiller, point. Donc là, on peut être dans toutes les situations possibles, parce que moi j'étais confronté à des pakchiches, à des ci, à des ça, en Asie, dans le monde entier, etc., sur des gros travaux, sur des... Mais quand vous vis-à-vis du Seigneur, vous dites, j'ai résolu de ne pas me souiller, c'est le point de base. Mais alors, ce qui est étonnant, Daniel, alors, de ce qui est... Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi l'enseignement des magiciens. Hein? Il a fait de la magie. Il a suivi l'école des magiciens. Et non seulement il a suivi l'école, il ne s'en est pas offusqué, mais il est sorti à quel rang? Le premier. Il est sorti major de l'école des magiciens. Alors que Dieu interdit de parler aux morts, de ci, de ça. Okay? Donc, au début, il a commencé par dire, j'ai résolu de ne pas me souiller. Et ensuite, je suis dans un environnement, on me demande des choses, il faut que je voie. Et il a participer au monde de son époque. Il ne l'a pas rejeté. Hein? Si on rejette, on s'exclut. Si on veut avoir un témoignage, il faut rentrer dans ce monde. Alors, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller, alors là, pareil, la recette, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Hein? J'en ai pas d'autre. Parce que, ou alors, vous m'expliquez votre situation. Beaucoup de gens viennent me voir et dire, voilà mon problème, qu'est-ce que t'en penses? Je peux dire, réfléchis ça, réfléchis ci, comme ça. Mais il y a tellement de situations différentes, mais ça revient toujours au même, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alors, une autre caractéristique de Daniel, quand on lui propose de manger les mets du roi, et ça, moi, dans ma vie professionnelle, dans les négociations, c'est souvent, faites toujours une contre-proposition de... Enfin, il a dit, ben, on va essayer autre chose. Vous me donnez des légumes, on verra bien. Hein? Et vous pouvez toujours aller voir votre supérieur, les gens avec lesquels vous devez traiter, en disant est-ce qu'on pourrait essayer autre chose ? Alors pour ça, il faut un peu d'imagination, il faut de la créativité. Mais n'oublions pas, nous sommes les enfants du Dieu qui a créé le monde, l'univers, etc. Si nous, on ne crée pas, qui va le faire ? Si nous, on n'a pas d'imagination, qui va le faire ? Donc, on l'a, cette image. Elle est en nous. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais il faut être conscient qu'on nous demande, que le Seigneur nous demande, d'être actifs dans le monde qui nous entoure, de faire des contre-propositions, d'arranger les choses, etc. Bon, il y a une autre caractéristique, c'est être un bon serviteur. Alors, celui qui ne sait pas servir, il ne peut pas être patron. Alors là, c'est radical. Hein. C'est pas possible. Et Moïse était le serviteur de Jéthro pendant 40 ans. Josué était le fidèle serviteur de Moïse. Jacob, il a servi Laban pendant 2 fois 14 ans, etc. Il faut avoir cette capacité de servir, d'obéir, etc. Si on ne l'a pas, on ne peut pas prendre des responsabilités. C'est pas possible. Alors, une autre caractéristique, c'est reconnaître ses erreurs. Par exemple, David qui dit à Nathan, j'ai péché, etc. Jonas, prenez-moi et jetez à la mer, car je sais que c'est moi qui attire cette grande tempête. Et là, je me rappelle du recrutement chez McKinsey à la fin de l'INSEAD. On était à l'époque, aujourd'hui ils sont beaucoup plus nombreux, 200 élèves. Et sur les 200, 150 voulaient aller chez McKinsey. Ils en ont pris deux. Mais il fallait savoir, c'est qu'il y avait des questions éliminatoires. Et une des questions éliminatoires, c'était « Qu'avez-vous loupé dans votre vie ?» Alors celui qui n'a rien loupé, il n'a aucune chance. Parce qu'ils disent « Il faut être capable de reconnaître qu'on a fait de grosses bourdes. » Surtout, bon, je suis intéressé surtout au côté professionnel. Parce qu'ils disent, ceux qui reconnaissent, ils ne feront plus deux fois la même erreur, et ils ont aussi la capacité de comprendre l'autre, etc. Donc, dans le monde des affaires, ce sont des choses importantes. Alors, quelques exemples de valeurs, là, c'était plutôt des comportements, quelques exemples de valeurs qu'on trouve dans la Bible. Hein. Donc, on est bien, premier truc, c'est un peu la culture. Deuxième, c'est les réponses aux problèmes techniques de management, etc., qu'on peut trouver dans la Bible. Et dans ces réponses, il y a deux façons sur les comportements, mais aussi sur les valeurs. Alors, je passe rapidement dessus. L'endettement et le cautionnement. La Bible interdit l'endettement et le cautionnement. Je vais citer si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Okay. Si tu t'es engagé pour autrui, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, ne donne ni sommeil, à tes yeux, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, etc. Donc il y a Proverbe, il y a Ecclésiaste, il y a un peu. L'endettement est un esclavage et une malédiction. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, c'est dans la Bible. Hein. Bon, on le sait. Hein. Bon, on accuse les banques, on se plaint, etc. Donc, nos États qui sont endettés, ils sont esclaves. Hein. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui augmente le fardeau de sa dette. OK ? Alors, première chose, dans mon entreprise, on n'avait pas de dette. J'ai une fois, on faisait des nantissements pour des acquisitions d'équipements, etc., pour fonction de... Mais le bilan global, un minimum de dette ou pas de dette. J'ai une fois remboursé, à la crise de 93, 80 millions de francs en un mois, parce que les banquiers sur une filiale avaient coupé les vivres, quand ils vont venir en disant je rembourse tout, etc. On a fait une erreur, etc. Ouais, mais maintenant vous êtes dehors et c'est fini. Alors, j'ai eu la chance que ça marche. Alors moi, je ne dis pas... alors, il y a des endettements. Vous achetez un appartement et au lieu de payer le loyer, vous payez le remboursement à la banque. C'est bien, c'est pas mal, d'après la Bible. On n'est pas, mais quand vous vous endettez pour acheter une télé, là, la Bible, elle dit le contraire. Okay. Donc, il faut le savoir. Hein. Moi, j'ai eu la chance que ça marche dans ma vie. Alors, je vous en témoigne. Mais je reconnais que ce n'est pas si évident que ça. Alors, pour vous dire, c'est mon fils qui m'a expliqué ça aux États-Unis, parce qu'ils sont très endettés. Il a acheté une maison, il y avait une bonne occasion au moment des subprimes. Hein, donc, quand tout s'est écoulé, il pouvait acheter une maison moitié prix à Chicago. Et il en a profité. Alors moi, j'ai dit, je te donne un complément à condition que ton seul souci, c'est de rembourser et de ne pas rester dans les dettes. Et donc, moi, je t'aide à faire ça. Alors, on discutait sur les dettes, etc. Parce que maintenant, on a des trucs, on est endetté pendant 30 ans, 25 ans. Enfin, moi, dans mon époque, c'était 10. Hein. Il m'a dit la chose suivante. Il y a deux façons de réfléchir. Le côté paysan, je gagne de l'argent et puis ensuite j'achète, je fais éventuellement un petit prêt, mais je le rembourse le plus vite possible. Il y avait un Américain, il faut voir bien le raisonnement. Il dit, moi j'ai rien, j'avais rien. Je m'endette pour avoir une belle maison, une belle voiture, une belle télé. Mais j'ai tout, sans avoir rien, ok? Alors, on lui dit, ouais, mais tu perds ton boulot. Ben, il dit, je perds tout. Mais combien j'ai perdu par rapport au départ? Rien, puisque j'avais rien. Attends, c'est pas fini. Et comme ça marche, je recommence. Point. Vous voyez, et aux États-Unis, c'est des raisonnements courants. Hein. Ils encaissent les coups plus facilement, ils rebondissent plus facilement. Vous voyez le type de raisonnement qu'on fait. Bon, il faut être détaché des richesses, ça c'est aussi par rapport aux valeurs. C'est important, vous le savez, mais c'est pas si évident que ça non plus. Il y a 200 versets qui parlent de la foi, il y a 200 versets qui parlent du salut dans la Bible, à peu près. Hein. Et il y en a combien qui parlent des richesses, de l'argent, de 2300, 10 fois plus. Donc c'est un sujet sensible. Un autre point rapide, l'alliance avec les non-chrétiens. Il faut être très prudent pour les alliances avec les non-chrétiens. Alors, pareil, j'ai eu la chance de créer une société avec un ami chrétien. Donc, il a toujours dit, on ne veut pas d'autres actionnaires que des chrétiens. Mais bon, ça va, la société marche, c'est super. N'empêche que c'est pas si facile que ça, mais la Bible dit quand même, ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, quelle part le croyant a-t-il avec les non-croyants? Pour quelques autres exemples de valeurs, le monde est basé sur l'égalité. Pour Dieu, on est unique. On n'est pas tous pareils. Il n'y a pas d'égalité pour Dieu. Moi, j'ai eu cette chance, comme je vous dis, au niveau de l'éducation. Mes parents, les cinq enfants, nous ont toujours dit, vous n'êtes pas comme les autres. Pas supérieur, vous n'êtes pas comme les autres. Aucun de nous n'a fumé, jamais. Aucun de nous n'a jamais... Parce que quand on est adolescent, on fume, c'est pour se conformer aux autres. Quand on a cette éducation comme quoi on est unique et qu'on n'a pas besoin de se conformer, on peut être soi-même et tout à fait être bien, réussir dans la société. Les autres, moi j'ai eu autant de copains que les autres, ça n'a pas fait ni chaud ni froid. La parabole des talents, hein, le côté égalité. le maître, il n'a pas donné le même nombre de talents à tout le monde. Pourquoi il n'a pas donné 3 talents à chacun, etc. Parce qu'il savait très bien qu'il y en avait qui étaient plus compétents à la fructification que les autres. Et conclusion à la fin de la parabole, c'est effectivement celui auquel il a donné le plus qui a gagné le plus. Donc le maître, il connaissait bien, et celui auquel il a donné le moins qui n'a rien fait. Il l'a donné quoi, à l'autre qui gagnait le plus parce que business, c'est le business. Il faut savoir ça. Et Dieu nous donne. Je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus. Des amis chrétiens qui m'ont dit « Ouais, mais l'entreprise devrait se développer beaucoup plus, ou je devrais avoir beaucoup plus avec les brevets qu'on a, on est quand même chrétien, on n'est pas béni par le Seigneur. » Moi, il m'est arrivé souvent de dire « Mais si le Seigneur, il veut que tu n'as pas les capacités de faire plus grand, c'est une bénédiction que ça ne se développe pas plus que ça. Tu veux être grand, tu veux être... Mais tu es bien, tu as une maison, tu as su. Pourquoi tu veux plus ? Peut-être que le Seigneur... Par sa bonté, il te limite parce que tu n'as pas les capacités de le faire.
Bon, on va peut-être arrêter. Bon, je vous dis rapidement. Bon, la Bible, c'est plutôt travailler pour gagner. Enfin, le monde est travailler pour gagner. La Bible, c'est travailler pour servir. Le monde a des besoins illimités, alors qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Là, il y a un exemple. Mon ami chrétien rencontrait un client qui avait tout perdu et qui s'est refait, et qui est un gars vraiment riche. Et à un repas, ce client non chrétien lui dit « Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est la plus grande bénédiction de la vie ?» Bon, alors, est-ce que je profite pour lui témoigner, etc. Donc, et ce client chrétien lui répond, moi, je sais ce que c'est. C'est de se satisfaire de ce qu'on a. Donc, si un type très riche, qui avait tout perdu ce qu'il avait, qui était pauvre, et qui est redevenu riche, ça, il avait compris. Ça, il avait compris. Se satisfaire de ce qu'on a. Et de ne pas être attaché aux richesses. Bon, les richesses produisent plutôt la misère, en tout cas la misère morale. Les biens, attention, bon, dans la Bible, il y a deux trucs. Les biens produisent de la richesse. Il ne faut pas confondre les biens avec des revenus. Mais je ne rentre pas dans le détail. Le monde a des besoins illimités avec des moyens limités. Et nous, chrétiens, c'est fantastique, on a des besoins limités avec des moyens illimités. Il faut avoir ça dans la tête. Une fois qu'on a compris ça, ça roule. Bon, dans le monde, on est plutôt dans le processus acheter-vendre. Mais dans le monde de Dieu, c'est donner et recevoir. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais quand on a compris ça, on se comporte différemment. Dans le monde, quand on investit, on a un retour sur investissement. Il y a des intérêts, retour sur investissement. Dans le monde de Dieu... Il y a la multiplication. Il nous donne toujours plus. Il multiplie plus qu'on a besoin. Pourquoi il nous donne plus qu'on a besoin? Pour qu'on puisse donner. Pas pour qu'on puisse amasser. C'est juste pour qu'on puisse donner. Alors, il y a un point qui, moi, m'a... Ça fait longtemps que j'ai relevé ce verset-là. Tu ne muselerais pas le bœuf qui foule le grain. Et on a, j'ai vu plusieurs cultures anglo-saxonnes, françaises, etc., sur les bonus. C'est exactement, la Bible dit, il faut donner du bonus. Si tu muselles le bœuf, pourquoi il ne faut pas le museler? Pour qu'il puisse manger le grain et la paille. Parce qu'il fait un travail. Donc c'est des points importants. Et moi, j'ai jamais eu... De problèmes, de donner des gros bonus. Bon, alors, ben, ce qu'on entend dans les banques, c'est n'importe quoi, on n'en parle même pas. Mais dans les directeurs, parce que ça a deux avantages. D'abord, quand ça va mal, les coûts sont extrêmement réduits. Et quand ça va bien, que tout le monde en profite. Et quand on fait. Le président de la COMEX, un jour, je dis ouais, on n'est quand même pas trop bien payé, etc. Il me dit aligne les 5 dernières années de ton salaire et de tes bonus. Tu divises par 5 et tu me dis si tu es par rapport au genre de total ou nos clients, si tu es mieux payé ou moins bien payé. J'ai un peu eu besoin de faire le calcul. Je dis, ouais, il a raison, qu'est-ce que je râle à propos de mon salaire et... J'ai eu bien plus que les autres. Donc, pareil, c'est un enseignement qui est dans la Bible. C'est pas quelque chose que je sors de la manche. Etc. Alors, je termine par le dernier point. J'aime bien... Donc, premier point, la culture. Deuxième point, j'ai des problèmes, comment traiter les salaires, les bonus, etc. Il y a dans la Bible beaucoup de... Il faut que je les cherche, mais beaucoup de réponses. Troisième point, être dans la volonté du Seigneur. Si vous êtes dans la volonté du Seigneur, regardez dans la Bible les exemples. Moi, je vais en citer qu'un, Jacob. Laban l'a trompé je ne sais pas combien de fois, parce que déjà pour les femmes, il a fait travailler le double. Et ensuite, il est marqué, tu as changé plus de 10 fois mon salaire. Et ce n'est pas pour le monter. Laban voyait qu'il gagnait trop, et donc il a baissé son salaire. Jusqu'au jour où Jacob a dit, maintenant je me casse. Donc, il faut bien voir. Et pourquoi, les chèvres, pourquoi elles avaient toutes des taches comme ça? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Nos chèvres, nos entreprises, le Seigneur incline le cœur des rois. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, les choses, les chemins, les marchés, les trucs s'ouvrent, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, moi je dis toujours, Seigneur, maintenant c'est ton boulot, hein. Moi j'ai fait le mien, et puis justement, dis-moi, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais tu ne voulais pas ça, on fera autre chose, ce n'est pas un problème. Hein. D'être dans donc ce troisième niveau, d'être dans la volonté de Dieu, là il faut attacher les ceintures, parce que là ça part. Et les personnes qui arrivent à rentrer là-dedans, il n'y a pas de limite. On est au service du Créateur de l'univers, hein, qui nous dit, oui, c'est bien ce que tu fais, mais comment est-ce que je peux louper dans ces cas-là? C'est pas possible. Voilà, bon, ça c'est la première partie, si vous avez des questions.
Question par exemple,
après on fait
une petite pause.
Je suis désolé, je peux faire plus court la suivante, mais même pas après, on se laisse un peu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut encore en rajouter, mais c'est pas.
Ça, je crois
que
c'est
bien s'il y a des.
Oui.
Tu sembles. Un peu le recours à l'endettement, est-ce que le recours à l'endettement, y compris dans la vie de l'entreprise, ne peut pas être fait de manière saine et tout à fait équilibrée?
Oui, hein? C'est pour ça que j'étais quand même prudent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'entreprise que j'ai créée avec mon ami, il n'y a pas de dette. Le banquier ne connaît pas. Encore que maintenant, il nous demande des lentissements pour des grosses affaires au Brésil ou en Saint-Domingue, etc. Donc, il faut quand même aller voir les banquiers pour avoir des garanties, il faut prendre des prêts, etc. Donc, c'est pas... Mais, dans notre tête, hein, je vous ai lu les passages, on est lié, quand on a un endettement, on a un engagement vis-à-vis de celui qui a la dette sur notre dos, on est son esclave. Point. Alors... Et j'ai aussi dit, acheter une maison, on remplace tout simplement le loyer qu'on doit payer par rembourser à la banque. Je sais pas, c'est un endettement sain. C'est une accumulation de biens. Et j'ai bien dit tout à l'heure, attention, les richesses, c'est pas la même chose que les biens. Les richesses amènent au malheur, enfin les revenus, et les biens créent des richesses. Ou les richesses amènent à la pauvreté, les biens créent des richesses. Donc, acquérir des biens endettés sous cette forme, il n'y a aucun problème. Mais le acheter un téléviseur ou une machine à laver à crédit, alors on peut payer 3 fois sans intérêt, bon, à la limite. Vous voyez, à un moment donné, il ne faut pas être... N'empêche que c'est écrit dans la Bible. Hein. Donc maintenant, lui, Jésus, lui aussi, il n'a pas respecté certaines lois parce que il y a eu une interprétation. Ce qui compte, c'est le prochain, hein. C'est-à-dire ce qu'on en fait et est-ce qu'on est dans la volonté du Seigneur. Quand une dette, y compris au niveau de l'entreprise, devient lourde ou devient, il faut la mettre devant le Seigneur. C'est important. C'est important. Maintenant, je dis. Alors là, ce que je condamne, au niveau chrétien, les églises qui demandent aux gens de s'endetter pour faire des dons. Alors là, pas moi, ok ? Ça existe. Donc, tu comprends la différence ? Il faut rester dans tout ce que j'ai dit aussi, il faut beaucoup de mesures. J'ai commencé, la Bible et le Saint-Esprit. On est inspiré, Dieu nous conduit, il n'y a pas de problème, hein.
Comment est-ce que, concrètement, en tant qu'homme d'affaires, on trouve le temps pour alimenter cette connaissance des valeurs, des comportements chrétiens dans la pratique? Comment est-ce que vous avez dans votre carrière su alimenter ce cap que vous êtes venu?
Bon, c'est une bonne question parce que ça part à la fois de la base à la conclusion. Il faut avoir envie, c'est-à-dire... il faut avoir envie de lire la parole de Dieu. Il faut avoir envie, quand il y a des gens qui parlent, des chrétiens, du management, j'y vais, j'essaie d'écouter. Quand il y a des livres, etc., j'essaie de les lire. Alors, j'ai eu la chance de fréquenter, il y a longtemps, il est décédé maintenant, un ami anglais, Ralph Challis, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissaient. Alors, lui, il a la réponse, hein. Lire la Bible plusieurs fois par... Mon ami, ben j'arrive pas à le faire, mais mon ami avec lequel j'ai fait l'entreprise, il lit la Bible 3-4 fois par an. Donc, à partir de ce moment-là, on est quand même sacrément imprégné, mais ça suffit pas. Il faut aussi l'inspiration du Seigneur et la prière, et il faut les autres, la communion fraternelle, c'est toujours la même chose. Et cet ami, il m'appelle. Quand il m'appelle... Théoriquement, il m'appelle pour faire un conseil d'administration, pour parler de l'entreprise en disant qu'il y a des problèmes de contrat, qu'il y a des problèmes de personnel, etc. Mais c'est, alors, j'exagère à peine, un quart d'heure de l'entreprise et 2h30 de la vie spirituelle. Alors qu'on a une entreprise ensemble. Donc quand on se voit, une après-midi, 1 heure d'entreprise et 3 heures de vie spirituelle. Parce que lui, il est passionné par ça, et moi, je suis passionné par ça. Et c'est là, avec ses expériences, où des fois, il m'envoie des SMS, j'en ai peut-être un. Il me dit, tiens, j'ai vu ça. Ou quand il avait rencontré son client, qui lui dit la chose la plus importante, la plus grande bénédiction, c'est de se satisfaire. Il m'a envoyé un SMS, c'est un client danois, il était à Copenhague. Bon, voilà. Et on accumule une expérience, des exemples, et le fond aussi de la parole de Dieu. J'aime bien, quand on me parle en anglais, revoir dans la Bible et lire tout le passage qui concerne le verset qui a été tiré. Alors, vous êtes déjà jeune, vous ne percevez peut-être pas encore les choses comme moi. Moi, je suis un vieux, je suis peut-être complètement décalé vis-à-vis de vous. Mais j'ai l'avantage d'avoir pu accumuler toutes ces choses. Mais il y a deux choses. Il faut avoir la chance de pouvoir les accumuler, de rencontrer les gens, etc. Mais il faut s'y intéresser. Je dis toujours, pour le succès, on fait plein de trucs. Il faut avoir la chance et il faut avoir la compétence. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de chance, mais qu'il est très doué, ben, il n'a pas de chance, il ne fera rien. Si quelqu'un n'a que de la chance et pas de compétences, il n'ira pas loin non plus. Donc il faut les deux. Donc là aussi, il faut vraiment que vous y intéressez. Et moi, ce que j'essaie de vous faire passer en vous touchant du doigt, en vous citant un peu pêle-mêle des exemples, c'est l'importance et vous donner envie de rentrer dans cette vie et dans ce troisième niveau, d'être dans la volonté de Dieu, ou alors ça part comme une fusée. Hein? Et voilà, effectivement, c'est la parole de Dieu, tout qui intéressait. Oui.
Avant que de poser ma question, je vais rebondir sur la question J'ai coutume de dire que l'homme n'est pas esclave du temps. Nous sommes maîtres de notre temps et ce n'est pas le temps qui est maître de nous. Pourquoi est-ce que je dis cela? Même si on est homme d'affaires, même si on est cadre supérieur dans une entreprise, on peut toujours trouver du temps pour pouvoir alimenter notre foi. Si je prends mon exemple, moi je me suis donné comme vraiment motifs entre midi et deux, avant d'aller au déjeuner avec mes collègues ou avec mes collaborateurs, je vais passer au moins 10 minutes, soit à dîner, soit à prier. Là, je peux fermer ma porte de bureau à clé et je suis d'accord, pas à venir. Parce que parfois le matin, je n'ai pas le temps de pouvoir éviter, surtout si je dois aller très très loin. Ça, peut-être on pourra échanger sur le sujet par la suite. Maintenant, j'en viens à ma question. Dans tes conclusions, il y a une phrase qui m'a fait un peu tiquer. Tu as dit, si nous sommes dans la volonté de Dieu, tout marche. Et au préalable, tu as dit, pourquoi est-ce que les chèvres avaient toutes les taches noires. Et ça me fait tiquer parce que la volonté de Dieu était systématiquement liée au succès que nous testons.
Il n'y a aucune relation côté succès et volonté de Dieu. Il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, et il y en a qui ont vécu, il y en a qui sont devenus très riches, il y en a qui étaient très pauvres. Et donc ça, c'est autre chose. Il faut pas... J'avais un ami, il disait, voilà, pour... je donne à Max, il était très riche, il donne à Max parce que quand je vais être au paradis, je veux qu'on me donne encore plus. Ok, c'est pas, il n'y a pas de relation où je vais encore être plus riche, etc. Il n'y a pas de relation. Le seul truc que je dis, quand on est dans la volonté de Dieu, juste un exemple, j'ai un ami qui m'a demandé de l'aider à monter son entreprise. Bon, il est venu assez tard, tout avait déjà foiré, il dit ouais, bon. Et il me dit, ils étaient à deux, des chrétiens, c'était que des chrétiens qui montraient. On a eu tellement de difficultés qu'on est sûr qu'on est dans la volonté de Dieu parce que l'ennemi, il se bat contre nous. Moi, premier réflexe, j'ai dit, oh, peut-être que Dieu est tellement bon avec vous qu'il veut vous empêcher de vous lancer dans une galère pas possible. C'est un peu... Il n'y a pas de lien direct entre le succès et la volonté de Dieu. Mais si on est dans la volonté de Dieu, et je pense cet ami, peut-être il est dans la volonté de Dieu, parce que je sais que tu es chrétien, ça fait maintenant 3 ans, je l'ai vu il y a 3 semaines, il a complètement changé. Il est en train, il m'a demandé s'ils font des réflexions de stratégie, si je veux les donner un coup de main, j'ai dit ok, je veux bien venir, etc. Parce que moi, à un moment donné, j'ai dit maintenant stop, avec ce cirque, ça ne marche pas. Et je souhaite qu'ils réussissent. Ça a pris 3 ans, 4 ans. C'est long quand on veut démarrer une entreprise et quand on dépense de l'argent, etc. Et là, je sens qu'il bascule dans la volonté de Dieu. Ou la volonté de Dieu, ce n'était pas qu'il se précipite de la façon dont lui voulait faire. Et son seul leitmotiv, c'est qu'il faut donner aux œuvres, il faut faire ci. Le nombre de gens qui m'ont dit ça et qui sont complètement plantés. Ça, ce n'est pas. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que je m'occupe du voisin, que je fasse une association, que je monte un business, que je donne et combien veux-tu que je donne. Et c'est individuel. Moi, je ne suis pas là, je vous parle pas de l'évangile de prospérité, parce que ça n'a rien à voir. Je vous encourage à suivre la volonté du Seigneur et le chemin pour vous. Et on est X personnes, il y a autant de chemins différents. C'est le seul truc. Moi, je suis là parce que j'ai eu un chemin un peu particulier. Encore de mon chemin, vous avez vu que tout petit bout. Parce que dans ma vie, j'ai tout perdu à un moment donné. Et j'ai tout trouvé 10 fois plus. Okay? Donc, y compris la famille, y compris, etc. La santé. Okay? Donc, Parce que ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, Seigneur, est-ce que je suis, moi, marié au, souvent, ou une époque de ma vie, je disais, Seigneur, surtout que je reste dans ta volonté. Et tu as une tuile après l'autre qui tombe dessus. Tu n'as plus rien, plus de boulot, plus d'argent, plus de famille, plus de ci. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, Job, c'est en fait, Seigneur, si c'est ta volonté, mais il ne nous laisse pas crever comme ça. Je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas l'imaginer. Alors peut-être d'autres diront le contraire, mais je n'en sais rien. Ça, c'est le message que je porte. Nos voix sont différentes, nous souffrons, nous ne sommes pas exempts de problèmes, etc. Mais la consolation que le Seigneur donne dans nos corps, même pendant ces périodes-là, est phénoménale. Mais ça, c'est purement personnel, je ne peux pas vous convaincre de ça. Mais en réfléchissant après coup, il dit, mais Seigneur, tu étais à côté, mais tous les jours, tu étais même devant. Donc voilà, on ne peut pas... Et là, je peux témoigner que des choses. Et je dis que ça marche. Et ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Je connais un ami, encore, c'est le même dont je vous ai parlé tout à l'heure, il avait, pas si riche que ça, mais une dizaine ou une vingtaine de millions d'euros. Donc c'est quand même... Je ne sais plus ce qu'il fait. Je n'ai pas gardé le contact parce qu'il ne voulait plus m'écouter. Il m'appelle un jour et dit... Est-ce que tu peux intervenir pour moi pour que j'ai une chambre à l'armée du salut? Il n'avait plus rien. Il dormait dans la rue. Ok. Il était riche. Il a perdu sa femme, il a perdu. Alors, je n'ose pas le recontacter, je pense qu'il s'est redressé un peu. Parce que quand je l'ai au téléphone, ça allait pour 3-4 heures. Alors, moi, je n'ai pas le temps pour le moment. Mais un jour, je le recontacterai. Je le recontacterai. Donc, attention, hein. Et chrétien, et qui donnait, et qui priait, et qui intervenait comme moi dans les conférences, etc. Hein. C'est... Faut être sage et humble.
Oui. Vous avez pas... Enfin, j'ai un peu du mal avec le mot chance. Pour avoir de la chance, vous avez
dit
un peu dans votre
oui.
Alors... Voilà. C'est plus qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. Pour moi, oui. Je ne sais pas si on a vraiment de la chance quand on est chrétien, c'est plutôt est-ce que, voilà, on a Dieu, enfin, c'est pas une histoire d'hasard.
Oui, oui, non, mais c'est vrai, je dis chance dans le monde quand on parle de ça, quand on me dit, quand par exemple on recrute quelqu'un, on recrute sur sa formation et sur ce qu'il a fait dans le passé. Il peut avoir eu sacrément du succès dans le passé. Est-ce que c'est dû à la chance dans le monde ou est-ce que c'est dû à la vraie? Parce qu'il faut se méfier. Quand on voit des magazines avec des patrons, il n'y en a qu'un sur 30 hein, qui est là. Mais ils font les une des magazines, on croit que tout le monde est comme ça. C'est pas vrai. Hein. Alors, en tant que chrétien, la chance n'existe pas. Nous sommes dans les mains de Dieu. Pour nous, c'est l'inconnu, donc on peut l'appeler chance. Mais comme moi, j'ai souvent traité avec des gens du monde, j'utilise le mot chance parce que c'est une part qui ne dépend pas de moi. Donc, le Seigneur me met, alors là, je ne dirais pas de la chance, me met dans des situations parce que c'est lui qui m'a mis comme ça, ou moi, je me suis mis parce que je n'ai pas oublié. Hein. Et donc, après, il m'en sort. Moi, je sais que ce n'était pas de la chance. Moi, je sais que y a cette idée-là, pour moi, ça n'a même pas frôlé l'esprit. Hein. Donc, j'utilise le mot chance plutôt par rapport au monde, parce qu'il y a le côté chance et compétence, ou volonté de Dieu et action qu'on peut faire soi-même.
Merci. Une petite question, je reviens à l'endettement. À ton niveau, d'abord, quand il s'agit d'une entreprise, et la plupart des personnes qui sont ici ne sont pas patrons de l'entreprise. Donc, en fait, on subit en fait, la politique du patron. Et d'autre part, il me semble que parfois, la loi est faite de telle façon qu'il y a des avantages dans ce sens d'être endetté.
Alors déjà, il ne faut pas avoir mauvaise conscience après ce que je vous ai dit, mais je voulais quand même un peu vous secouer sur certains points. Hein, parce que c'est quand même dans la Bible. Hein, donc attention. Faites-vous une opinion. Vous avez entendu l'histoire de mon fils, l'Américain, son ami américain, ce qu'il lui dit. Alors, quand il m'a dit ça, mais c'est pas bon. Hein. Finalement, il avait rien, il prend tous les risques, il a tout, il repère tout, il a rien, et puis il recommence. Quoi. C'est vraiment pour après, quand il aura 70 ans, on ne sait pas comment il fait, mais dans la logique. Donc il y a dans les lois, dans les quand on achète un appartement, on peut déduire fiscalement tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas d'incitation légale pour s'endetter, pour acheter une télé. Pour une entreprise, il y a pas, il y a des incitations pour investir parce qu'on peut embaucher, etc. Donc il y a des bonnes choses. Donc souvent, je cite Messier. Donc l'homme, vous connaissez peut-être pas, c'était il y a 10 ans ça, Messier, qui a racheté tous les trucs, c'était après Tapie. Enfin, il fut un temps, c'était une folie. Son entreprise Vivendi était endettée, je crois, quelque chose comme 20 fois le chiffre d'affaires. Mais c'était un tellement beau parleur, je vais me mettre dans la télécom, je vais me mettre dans le cinéma, je vais me mettre dans ci, je vais me mettre... Et le futur. Et il n'avait pas tort, parce que... aujourd'hui, tout ce qu'il avait vu, c'est un vrai visionnaire, ce s'est passé. Sauf que son ego personnel a tellement pris le dessus qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Et le vrai défaut de toutes les entreprises qui coulent ou qui s'y disent, c'est que le mec, il a la tête, et à un moment donné, il ne passe plus dans les portes. C'est aussi simple. Que ça, c'est-à-dire, c'est l'homme qui ne sait pas s'arrêter. Donc, que dans une entreprise pour... on avait 30 usines en France, quand j'avais une nouvelle usine à construire, j'ai pris toutes les subventions et les trucs qu'on pouvait me donner, les dettes. Alors, il y avait effectivement il fallait prendre des emprunts pour avoir la subvention, si on ne pouvait pas être... Mais moi, j'ai eu jamais aucun état d'âme là-dessus, sauf que mon souci, c'était de rembourser, et mon souci, c'est de ne pas aller trop loin. Et j'avais des actionnaires qui me disaient, mais pourquoi vous ne faites pas plus ? Et j'ai dit, bon, parce que c'est moi, point. Alors, à partir du moment donné, on n'a plus de réponse. Et quand on va trop loin, voilà. C'est un peu ça la réponse. Il ne faut pas être dogmatique. Mais le fait de savoir, c'est quand même marqué dans la Bible que c'est un esclavage, etc. Moi, je suis esclave de personne, si ce n'est le Fils de mon Dieu. Hein? Point. J'ai pas à me soumettre à quoi que ce soit d'autre. Mais à part ça, je suis pas Daniel et je combine avec ce qu'il faut combiner, il n'y a pas de problème.
On va faire une dernière question. On aura quand même la table ronde, on va pouvoir continuer ça. Dernière question, puis on fait une toute petite pause pour en reprendre la
Je n'ai pas bien compris la distinction entre bien et richesse.
Ouais, c'est un peu compliqué. Ben, je suis passé vite. un bien, c'est on hérite un bien. Par exemple, l'héritage, dans la Bible, on parle beaucoup d'héritage. Okay? Hériter, c'est pas un péché. Hein? Hériter, c'est bien. Capitaliser, Abraham, Jacob, ils avaient des troupeaux, ils avaient fait des puits, ils grandissaient, souvent le groupe grandit, c'est pas un mal. C'était des capitaux. Entre richesse, c'est plutôt ce qu'on dépense, dans le sens, le train de vie qu'on a, et donc ce qu'il faut gagner pour avoir ce train de vie-là. Voilà, pour toucher du doigt les deux choses. Le capital, ou l'avoir, le bien, une maison, etc., ça apporte du confort et de la richesse. Consommer, ça amène souvent... consommer beaucoup quand on en a beaucoup amène souvent au désespoir, au moins psychologique, ou même mon ami, et à un moment donné, il n'y avait plus rien du tout.
Ok, on va intervenir.
Il faut arrêter tout ça.
Je rebondis sur ce que Augustin qui avait dit que le bonheur, c'était de désirer ce que l'on possède.
Oui, mais c'est satisfaire de ce cas-là.
C'est très intéressant. Et deuxième chose, le tout dernier livre de Jésus, Les choix en pense Dieu, donc en parlant de la volonté de Dieu, voilà, je recommande ce livre qui est normalement à 5 euros et je vous le rends aujourd'hui à 5 euros.
À 10, toi.
C'est encore un petit chose. Comme je l'ai fait, il est 11h24 à 11h34.